Il y a 15 jours, nous avons commencé une série sur Jacob dans le livre de la Genèse et nous avons vu que Dieu est intervenu pour assurer une descendance à Isaac, le fils d'Abraham, le fils de la promesse, en permettant à Rebecca, son épouse, alors stérile, d'être enceinte. Nous avons vu également que Dieu a choisi, avant sa naissance, Jacob et non Ésaü, son frère jumeau et aîné. Et nous avons vu enfin qu'Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob en méprisant ainsi les choses de Dieu pour une simple soupe de lentilles. Ce matin, nous allons poursuivre le récit de la vie de Jacob et nous allons nous arrêter sur un épisode en quatre tableaux. Quatre tableaux qui tournent tous autour de la bénédiction de Dieu, de cette bénédiction qu'Isaac doit transmettre avant de mourir. Quatre tableaux avec quatre personnages. Isaac, le père, qui veut donner la bénédiction à Ésaü, son aîné, malgré l'oracle divin. Rebecca, la mère, qui va tout mettre en œuvre pour que ce soit Jacob qui reçoive la bénédiction selon la parole divine. Ésaü, le fils aîné, qui s'apprête à recevoir la bénédiction paternelle, malgré le serment qu'il a fait à son frère. Et enfin Jacob, le cadet, qui, comme sa mère, est prêt à tout pour recevoir la bénédiction promise. Notons à ce stade qu'entre ce que nous avons vu la dernière fois et ce matin, il y a un chapitre entier dans le livre de la Genèse qu'on n'abordera pas, c'est le chapitre 26, qui parle des pérégrinations d'Isaac. Nous ne l'aborderons pas pour gagner un petit peu de temps, et puis le sujet c'est plutôt Jacob plutôt que Isaac. Simplement, je souligne que dans ce chapitre-là, on y reviendra sans doute plus loin, Dieu va renouveler à Isaac la promesse qu'il a faite à Abraham, son père. Voilà, après cette brève introduction, je vous propose de considérer le premier tableau, qui met en scène Isaac et Ésaü. Et je lis dans le livre de la Genèse, au chapitre 27, les cinq premiers versets, je lis dans la traduction de la Nouvelle Bible Seconde. Isaac devenait vieux, ses yeux s'étaient affaiblis, il ne voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné, « Mon fils !» Celui-ci répondit, « Je suis là. » Il reprit, « Je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et chasse du gibier pour moi. Prépare-moi un plat appétissant comme je les aime et apporte-le-moi pour que je le mange, afin que je te bénisse avant de mourir. » Tandis qu'Isaac parlait à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü s'en alla dans la campagne pour chasser du gibier et le rapporter. Que se passe-t-il dans ce premier tableau? Il se passe qu'Isaac, maintenant vieux, il est plus que centenaire à ce moment-là, sentant la mort approcher, appelle Ésaü afin de le bénir. Le bénir de la bénédiction normalement réservée au fils aîné, mais que Dieu a destiné à Jacob, son cadet, qu'il a choisi, comme nous l'avons vu la dernière fois. Avant de le bénir, Isaac demande à Ésaü d'aller chasser pour lui et de lui préparer un plat de gibier appétissant comme il les aime. Et nous nous souvenons ici que dans la description des personnages qui avaient eu lieu au chapitre 25, il avait été dit ceci d'Isaac: Isaac aimait Ésaü parce qu'il appréciait le gibier. Oui, Isaac aime le gibier, mais il aime par-dessus tout Ésaü. Ésaü qui chasse pour lui et à qui il veut maintenant transmettre la bénédiction de Dieu. Notons ici deux détails dans ce passage qui vont avoir leur importance dans la suite du récit. Premièrement, la cécité d'Isaac. Et puis, deuxièmement, le détail de Rebecca qui a entendu tout ce qu'Isaac a dit à Ésaü. Avant de passer au tableau suivant, il faut évoquer ici une question qui s'impose. Pourquoi Isaac veut-il bénir Ésaü alors que la parole de Dieu à Rebecca avant la naissance des jumeaux était claire? Je la relis au chapitre 25, verset 23, le Seigneur lui dit: « Deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront au sortir de ton sein, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. » Logiquement, cette domination annoncée du cadet sur l'aîné aurait dû amener Isaac à bénir Jacob et non pas Ésaü. Alors pourquoi Isaac veut-il quand même bénir Ésaü? De plus, si Isaac connaissait l'oracle divin prénatal, il devait également savoir qu'Ésaü avait vendu son droit d'aînesse à Jacob, ce qui amplifie notre interrogation. Alors est-ce qu'avec l'âge, Isaac a oublié toutes ces choses? Je vais le dire autrement, est-ce qu'Isaac est devenu un peu gâteux? Ou bien est-ce qu'il a simplement décidé de ne pas tenir compte de ces choses? De bénir Ésaü en forçant la main de Dieu parce que Ésaü est son fils préféré. Il semblerait bien que ce soit cette dernière option qu'il faille retenir. Isaac avait tous les éléments en main pour ne pas bénir Ésaü. Mais il semble déterminé à écouter son cœur, à écouter ses sens, plutôt que Dieu. Enfin, notons que pour Ésaü, en acceptant ce que lui demande son père, il est déterminé à briser le serment qu'il a fait à Jacob quand il lui a vendu son droit d'aînesse. Nous passons au tableau suivant. Les personnages maintenant sont Rebecca, la mère, et Jacob, le fils cadet. Un tableau introduit au tableau précédent par la mention au verset 5, nous venons de le voir, que Rebecca a tout entendu, tout entendu, et elle décide d'agir sans perdre de temps, parce que le temps est compté. En effet, bientôt Ésaü reviendra de la chasse, et alors il sera trop tard. Et c'est la raison pour laquelle Rebecca appelle Jacob. Et je lis maintenant les versets 6 à 17. Rebecca dit à Jacob, son fils, « J'ai entendu ton père dire à Ésaü, ton frère, « Apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat appétissant pour que je le mange et je te bénirai devant le Seigneur avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi, voici ce que je t'ordonne. Va me chercher deux bons chevreaux du troupeau, je te prie. J'en ferai pour ton père un plat appétissant, comme il les aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à Rebecca, sa mère, Ésaü, mon frère, est velu, tandis que ma peau est lisse. Peut-être mon père me tâtera-t-il et il croira que je me suis moqué de lui. Ce n'est pas une bénédiction, mais une malédiction que je ferai venir sur moi. » Sa mère lui dit: « Que cette malédiction soit sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me chercher les chevreaux. » Il alla les chercher et les apporta à sa mère. Sa mère prépara un plat appétissant comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qu'elle avait à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. De la peau des chevreaux, elle couvrit ses bras ainsi que son cou qui était lisse, puis elle mit le plat appétissant et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de Jacob, son fils. Oui, Rebecca a tout entendu, mais elle ne voit pas du tout les choses comme son mari. L'intention d'Isaac de donner la bénédiction à Ésaü amène Rebecca à agir. Elle sait ce que Dieu a dit au sujet de Jacob et elle est déterminée à tout faire pour que cela arrive, pour que ce soit Jacob et non pas Ésaü qui reçoive la bénédiction. Et c'est pourquoi elle appelle Jacob, Jacob à qui elle explique la situation, Jacob à qui elle ordonne d'aller chercher deux chevreaux qu'elle compte préparer comme le gibier qu'Isaac aime tant. L'intention est ici clairement de tromper Isaac, de tromper ses sens, de lui faire croire qu'il mange le repas préparé par Ésaü. Mais Jacob a des réticences. Les ficelles semblent trop grosses. Son père risque de le démasquer. Et alors la bénédiction tournera à la malédiction. Je relis les versets 11 et 12. « Jacob répondit à Rebecca, sa mère, « Ésaü, mon frère, est velu, tandis que ma peau est lisse. Peut-être mon père me tâtera-t-il et il croira que je me suis moqué de lui. Ce n'est pas une bénédiction, mais une malédiction que je ferai venir sur moi. » Il faut noter ici que les réticences de Jacob ne sont pas du tout d'ordre moral. Ce qu'il craint, ce n'est pas de faire le mal. Ce qu'il craint, c'est d'être démasqué. C'est que son père se rende compte qu'il s'est moqué de lui. Et puis, au final, c'est d'être maudit par son père. Notons que si Jacob craint la malédiction, ça ne semble pas être le cas de sa mère Rebecca. Au verset 13, elle dit « Que cette malédiction soit sur moi, mon fils. » À l'évidence, la détermination de Rebecca est très grande, impressionnante même. Sans doute à l'instar de l'amour préférentiel qu'elle porte à son fils Jacob. Notons aussi qu'en acceptant le plan de sa mère, Jacob accepte de prendre le risque que sa mère soit maudite. Bon, Jacob ne sera pas démasqué. Je vends la mèche, mais vous connaissez l'histoire. Il ne sera pas maudit, mais les conséquences de la tromperie seront énormes. Jacob va devoir fuir. La famille, son frère, qui va vouloir le tuer. Il va devoir quitter le foyer familial et il ne reverra plus jamais sa mère qu'il aime tant. Oui, le prix à payer sera important. La suite et fin de ce deuxième tableau sont consacrées à la mise en place des détails de la tromperie qui va avoir lieu. Une tromperie audacieuse, une tromperie peut-être cousue de fil blanc, mais qui risque de fonctionner. Parce que les sens d'Isaac, les sens en deux mots, se sont beaucoup émoussés avec l'âge. À commencer par sa vue, puisque nous avons vu au début qu'il est maintenant aveugle. L'idée est donc de faire passer Jacob pour Ésaü. Comment ? En présentant à Isaac un plat qui ressemble à du gibier et qu'Ésaü est censé avoir chassé et préparé. Comment ? En portant les habits d'Ésaü qui portent son odeur. Comment ? En se couvrant les bras et le cou de peau de chèvre afin d'imiter la pilosité de son frère au cas où son père le toucherait. Quand tout est enfin prêt, Rebecca met le plat appétissant et le pain qu'elle a préparé dans les mains de son fils. Et Jacob n'a plus maintenant qu'à montrer ses talents d'acteur. Avant de passer au tableau suivant, il y a aussi ici plusieurs questions qu'il faut se poser. Rebecca a-t-elle bien fait d'agir ainsi? Était-elle obligée d'en arriver là pour que Jacob obtienne la bénédiction promise par Dieu? Ou bien est-ce qu'elle aurait pu agir autrement? Il semblerait en tout cas que Rebecca se soit sentie obligée d'agir. À l'évidence, elle croyait que Dieu avait besoin d'elle et de ses manigances pour accomplir son plan. À l'évidence, elle croyait que si elle ne faisait rien, la parole de Dieu ne s'accomplirait pas. À l'évidence, elle croyait que la fin justifie les moyens. Et nous reviendrons sur toutes ces questions dans notre conclusion. Passons au tableau 3. Tableau 3 qui met en scène Jacob et Isaac. Je lis les versets 18 à 29. Il vint vers son père et dit « Père !» Celui-ci répondit « Je suis là. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses. » Isaac dit à son fils « Comme tu l'as vite trouvé, mon fils. » Il répondit, « C'est que le Seigneur, ton Dieu, l'a fait venir au-devant de moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche, je te prie, que je te tâte, mon fils, pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le tâta et dit, « C'est la voix de Jacob, mais ce sont les bras d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses bras étaient velus comme ceux d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est bien toi, Ésaü, mon fils ?» Il répondit, « C'est moi. » Il dit, « Serre-moi que je mange du gibier de mon fils, afin que je te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea, il lui apporta du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche, je te prie, embrasse-moi, mon fils. » Il s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit en ces termes. « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, abondance de blé et de vin. » Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. Jacob se présente donc devant son père, affublé des habits d'Ésaü. Des peaux de chevreau sur les bras et le cou, et avec le plat préparé par sa mère. Si en goûtant le plat et en touchant les bras, Isaac ne s'apercevra pas de la supercherie, pour la voix de Jacob, c'est une autre histoire. En effet, quand Jacob appelle son père, sans doute en essayant d'imiter la voix d'Ésaü, son frère, Isaac a un doute. Qui es-tu, mon fils ? Demande Isaac. Après que Jacob ait dit, je suis là. Pour Jacob, c'est maintenant ou jamais que ça se passe. C'est maintenant ou jamais que Jacob doit tenir parfaitement son rôle. C'est le rôle de sa vie. Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses. » La tromperie est énorme, mais elle semble fonctionner. Elle semble fonctionner parce que Isaac s'interroge maintenant sur la rapidité avec laquelle Ésaü, il pense que c'est Ésaü, a trouvé du gibier et l'a préparé. Isaac dit à son fils, « Comme tu l'as trouvé vite, comme tu l'as vite trouvé, mon fils. » Il est temps pour Jacob d'enfoncer le clou. Et pour ça, il possède un argument au verset 20 qui pourrait être imparable. Un argument qui frise le blasphème, mais Jacob, sans vergogne, ne recule devant rien. Tant qu'à boire la coupe du mensonge, autant la boire jusqu'à la lie. Il répondit, c'est que le Seigneur ton Dieu l'a fait venir au-devant de moi. Il parle du gibier, bien évidemment. C'est sacrément culotté. Mais Jacob fait ici vibrer une corde sensible pour Isaac. La corde de la providence de Dieu, la corde de la présence de Dieu dans la vie d'Ésaü, de l'action de Dieu dans la vie de son fils bien-aimé. Une corde qui ne pouvait qu'attendrir Isaac, qui devait savoir qu'Ésaü le profane, comme le nommera l'auteur de l'Épître aux Hébreux, n'était pas très enclin aux choses de Dieu. Alors Ésaü qui dit maintenant que Dieu a conduit toutes choses, Isaac ne peut être que conquis. Si l'argument est redoutable, la voix de Jacob continue quand même à semer le doute dans l'esprit de son père. Et c'est ainsi qu'il demande à Jacob de s'avancer pour pouvoir le toucher. Isaac dit à Jacob, « Approche-toi, je te prie, que je te tâte, mon fils, pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le tâta et dit, « C'est la voix de Jacob, mais ce sont les bras d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses bras étaient velus comme ceux d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il faudra encore deux autres arguments pour finir de convaincre Isaac. Le goût du plat qu'il va manger, du bon plat cuisiné comme il les aime, et puis l'argument de l'odeur sur les habits d'Ésaü que Jacob porte. En tout, il aura fallu 5 arguments. Mais 5 arguments qui vont faire mouche. Et Isaac n'y a finalement vu que du feu. Et on pourrait dire jeu, set et match pour Jacob. Et oui, Jacob est parvenu à ses fins. Et pour cela, il a eu recours à 5 arguments, mais qui sont en réalité 5 mensonges. Le mensonge de son affirmation qu'il est Ésaü, le mensonge de son affirmation que Dieu a pourvu rapidement le gibier, le mensonge des habits qu'il porte et dont l'odeur va l'identifier à Ésaü, le mensonge des peaux de chevreau qu'il a mis sur ses bras et son cou et dont le toucher va aussi l'identifier à Ésaü, et enfin, le mensonge du plat de gibier qui n'est que du chevreau. Oui, Isaac a eu des doutes. Mais ses sens l'ont trahi. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Il n'y a vu que du feu. Isaac a eu des doutes, mais sa vigilance a été endormie par sa préférence pour Ésaü. Isaac a eu des doutes, mais son appétence pour la bonne chair a fini de le convaincre. Et après avoir mangé le bon plat cuisiné comme il les aime, et après avoir bu le vin qui lui est présenté, rassasié, Isaac a béni Jacob, pensant bénir Ésaü. Isaac a accompli la volonté de Dieu alors qu'il était résolu à ne pas le faire. Sur la bénédiction elle-même, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais faire l'impasse parce que je veux gagner du temps. On souligne simplement qu'il est question de récolte abondante, de domination sur d'autres nations, de domination sur ses frères, de malédiction pour ceux qui le maudiront et de bénédiction pour ceux qui le béniront. Et puis un dernier détail avant de passer au dernier tableau, il faut souligner quelque chose d'important ici. C'est qu'à ce stade, pour Jacob, Dieu n'est pas encore son Dieu. Le Dieu de la bénédiction qu'il vient de recevoir n'est encore que le Dieu de son père. Vous l'avez peut-être constaté quand nous l'avons lu au verset 20. Isaac dit à son fils, « Comme tu l'as trouvé, comme tu l'as vite trouvé, mon fils, » il répondit, « C'est que le Seigneur, ton Dieu, l'a fait venir au-devant de moi. » Nous verrons par la suite que Jacob pourra dire « mon Dieu », mais ce n'est pas encore le cas. À ce stade, c'est encore le Dieu de son père. Jacob va dire « mon Dieu » parce que Dieu l'a choisi, et il y arrivera à cette confession. Jacob, l'usurpateur que Dieu aime, et qui nous rappelle que la grâce de Dieu sur notre vie n'est jamais une question de mérite, mais toujours un cadeau immérité que le Seigneur nous fait. L'histoire n'est pas encore finie, on va passer vite sur ce quatrième tableau, je lis les versets 30 à 40. Isaac avait achevé de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté Isaac son père qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il prépara lui aussi un plat appétissant, ils auraient pu lui dire quand même, hein, qu'il apporta à son père et il dit à son père, « Lève-toi, père, et mange de mon gibier afin de me bénir, moi, ton fils. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu ? » Il répondit, « Je suis ton fils, premier-né, Ésaü. » Isaac fut saisi d'un tremblement terrible. Il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu arrives, je l'ai béni. » Et il sera béni. Lorsqu'Ésaü entendit ces paroles, les paroles de son père, il poussa un grand cri terriblement amer et dit à son père, « Moi aussi, bénis-moi, père. » Il répondit, « Ton frère est venu par tromperie et il a pris ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté par deux fois ? Il avait déjà pris mon droit d'aînesse et maintenant il a pris ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction en réserve pour moi ? » Isaac répondit à Ésaü, j'ai fait de lui ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs et je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils ? Ésaü dit à son père, n'as-tu donc que cette seule bénédiction, père ? « Moi aussi, bénis-moi, père !» Et Ésaü se mit à sangloter. Isaac, son père, lui répondit, « Tu habiteras loin des ressources de la terre et de la rosée du ciel, de la rosée d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu arracheras son joug de ton cou. » Ce quatrième et dernier tableau marque le retour d'Ésaü, et marque surtout la découverte de la supercherie par Isaac et par Ésaü. Il marque aussi la prise de conscience terrifiante pour Isaac. Le texte dit qu'il est saisi d'un terrible tremblement. La prise de conscience de la volonté de Dieu qui s'est accomplie malgré lui. Et puis ce quatrième tableau marque aussi la découverte ou la confirmation à Ésaü du caractère usurpateur de Jacob, qu'il a supplanté par deux fois. C'est aussi l'affirmation à Ésaü que Jacob dominera sur lui, qu'il sera son maître. Et puis c'est l'affirmation aussi qu'il n'y a pas de retour en arrière. Malgré les larmes d'Ésaü, la bénédiction transmise à Jacob ne peut pas lui être retirée. Tous ces points mériteraient bien des développements. Là aussi, je fais l'impasse et nous arrivons maintenant à notre conclusion. Chers amis, quelle histoire! Quelle histoire! Une histoire qui montre combien le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Une histoire aussi sans concession, sans maquillage, pourrions-nous dire. Et cela nous rappelle que la Bible ne cherche pas à nous éblouir. Elle ne cherche pas à nous en mettre plein la vue en nous proposant des héros parfaits, mais qui seraient aussi parfaitement irréels. Non, la Bible cherche à nous éclairer, c'est très différent. Elle cherche à nous montrer l'état de notre cœur, à nous montrer notre cœur tel qu'il est, à nous montrer que nous avons besoin de Dieu parce qu'il est le seul qui puisse changer ce cœur tortueux par-dessus tout. Notons que ce regard très réaliste de la Bible milite très fort en faveur de l'authenticité de son contenu. Tous les protagonistes de notre histoire ont quelque chose à se reprocher. Ils ont chacun mal agi à un moment donné. Et ce qui est peut-être troublant pour nous, pour vous ce matin, c'est de constater que Dieu a néanmoins accompli sa volonté au milieu de tout ce micmac par des moyens plus que questionnables. Comment comprendre cela? Comment comprendre que Dieu se soit servi des agissements mauvais de Rebecca et de Jacob, en particulier, pour accomplir sa volonté? Est-ce que cela veut dire que tous les moyens sont bons pour accomplir la volonté de Dieu, pour servir Dieu? Est-ce que ça veut dire que la fin justifie les moyens et que la seule chose qui compte, au final, c'est le résultat? Le chemin pour y parvenir, si on fait quelques entorses à la règle, ce n'est pas grave. Ces questions sont légitimes. Il faut se les poser à la fin de ce passage. Et il faut essayer d'apporter quelques réponses. Premièrement, il faut redire ici que Dieu n'approuve jamais le mal et qu'il ne commet lui-même jamais le mal. Il a le mal et le péché en horreur. C'est la première chose qu'il faut poser. Deuxièmement, il faut aussi se rappeler ici que Dieu se sert aussi des agissements pécheurs pour accomplir sa volonté. Dit comme ça, ça peut nous surprendre. Mais si on dit qu'il est celui qui fait concourir toute chose, au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son projet, ça passe peut-être un peu mieux. Ceci dit, si Dieu se sert de nos agissements pécheurs, cela ne le rend pas responsable à notre place du mal que nous faisons. Et la différence est bien là. Mais cela nous rappelle que Dieu est souverain. Et quand nous disons que Dieu est souverain, c'est qu'il est souverain sur toutes choses, les bonnes et les mauvaises. Il est tout puissant et il peut se servir des bonnes et des mauvaises choses comme bon lui semble. Rien, pas même le mal, n'échappe à son contrôle. Et j'ouvre ici une toute petite parenthèse pour dire que cette vérité, cette compréhension de Dieu devrait véritablement nous apaiser. nous apaiser, en particulier devant la folie des hommes que nous pouvons constater tous les jours dans nos médias, devant le flot incessant des mauvaises nouvelles, des nouvelles angoissantes qui se succèdent sans arrêt. Nous pouvons être en paix parce que nous savons que Dieu tient toutes choses dans sa main. Il tient notre monde dans sa main. Et au final, c'est sa volonté qui s'accomplira. Quels que soient les plans des hommes, quels que soient les plans des méchants ou les plans des puissants, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira au final. Je referme cette petite parenthèse. Oui, Dieu s'est servi des agissements de Rebecca, Jacob, Ésaü, Isaac pour accomplir sa volonté. Sa volonté pour Jacob, qu'il avait choisi, qu'il avait destiné pour recevoir cette bénédiction. Il s'est servi de Rebecca, Jacob, Ésaü, Isaac pour l'accomplissement de son plan. Mais cela ne veut pas dire qu'il cautionne ce que les uns et les autres ont fait. Ça veut juste dire qu'il est tout puissant et qu'il peut faire ce qu'il veut pour accomplir sa volonté. Troisièmement, il faut dire encore que bien que Dieu, dans sa souveraineté, se serve de l'homme pécheur et méchant, et des méchants pour accomplir ses plans, la fin ne justifie jamais les moyens. Le mal est toujours mauvais, il faut le redire. Et tous les moyens de servir Dieu ne se valent pas. Ce n'est pas parce qu'une intention est louable que je peux tout faire ou faire n'importe quoi pour y parvenir. En fait, Rebecca et Jacob n'avaient pas besoin de forcer les choses, de forcer la main de Dieu. Il leur suffisait de faire confiance à Dieu et de s'attendre à lui. Et c'est ici que nous devons constater qu'il y a une grande absente dans ces quatre tableaux, c'est la foi. C'est la foi. Aucun des acteurs de ce triste épisode n'a agi avec foi. Alors vous allez peut-être me dire que c'est facile pour nous de faire ce genre de constat. Nous qui avons toute la révélation, nous qui avons Jésus-Christ, nous qui connaissons beaucoup, beaucoup plus de choses, et vous avez raison, c'est beaucoup plus facile pour nous. C'est facile à dire, mais ce n'est pas parce que c'est facile à dire que ce n'est pas vrai. C'est facile à dire, mais c'est vrai. Néanmoins, posons-nous la question suivante. Est-ce que Dieu n'avait pas les moyens d'agir, même si ce qu'Isaac s'apprêtait à faire semblait irrécupérable? Est-ce que ça aurait mis Dieu dans une impasse? Est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que Dieu aurait été coincé si Rebecca n'avait rien fait? Mes amis, Dieu n'est jamais dans une impasse. Jamais. Ça m'a fait penser, alors les exemples, il y en avait beaucoup, mais ça m'a fait penser à cette histoire qui évoquera sans doute des choses pour vous, l'histoire de Balaam dans le livre des Nombres, ça vous dit sans doute quelque chose. Balaam, le devin du roi de Moab, Balak, et que le roi Moab envoie pour maudire Israël. Et alors que Balaam est en chemin sur une ânesse pour aller se présenter devant le roi d'Israël et le maudire, voilà qu'un ange de l'Éternel empêche l'ânesse d'avancer. Balaam ne voit pas l'ange de l'Éternel et se met à donner des coups à l'ânesse pour la faire avancer, qui se couche et qui ne bouge plus. Et puis, Balaam redouble de coups et l'ânesse tout d'un coup se met à parler. Et elle reproche à son maître sa dureté. Bon, je vais faire court. Et à ce moment-là, Dieu ouvre les yeux de Balaam qui voit l'ange de l'Éternel. Il lui fait rebrousser chemin, il revient à la cour du roi Balak, et là, il va maudire devant le roi de Moab, enfin, pardon, il va bénir à trois reprises le peuple d'Israël, alors que Balak l'avait envoyé pour maudire Israël. Chers amis, si Dieu a pu faire parler une ânesse, est-ce qu'il n'aurait pas pu trouver une solution ici, dans ce micmac, dans ce problème posé par la désobéissance d'Isaac ? Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu aurait pu s'en sortir si Rebecca n'avait rien fait ? C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire sans hésitation que Rebecca et Jacob n'étaient pas obligés d'user de fourberie pour obtenir la bénédiction de Jacob. Ils auraient pu attendre avec confiance que Dieu agisse pour accomplir ce qu'il avait promis. Bien évidemment, ce n'était pas facile à faire, mais c'était la bonne chose à faire. Chers amis, ce qui est vrai dans notre récit l'est aussi pour nous. Pécher et désobéir à Dieu en général, ou alors pour accomplir sa volonté en particulier, n'est jamais une bonne solution. Jamais. Attendre avec confiance que Dieu accomplisse ce qu'il a promis, c'est toujours notre défi. C'est le défi de notre foi. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire ou que nous ne devons rien faire et simplement nous croiser les bras en attendant que Dieu fasse tout. Dieu veut se servir de nous et il veut se servir de nous pour accomplir ses plans. Mais il n'attend jamais que nous le servions par la tromperie et le péché. Et puis notons bien ici que finalement, par leur tromperie, Rebecca et Jacob n'ont rien obtenu de plus que ce que Dieu leur avait promis et que ce que Dieu leur aurait donné de toute façon. Par contre, ils ont beaucoup perdu. Ils n'ont rien obtenu de plus, mais ils ont beaucoup perdu. On l'a déjà évoqué avec la fuite de Jacob et le fait qu'il ne reverra plus sa mère et que sa mère ne le reverra plus. Un dernier point pour terminer. Il concerne les sens, qui sont très présents dans notre récit. Les sens d'Isaac qui tous l'ont trompé. Et ça nous rappelle qu'il y a ici, pour nous, dans notre vie de foi, une très grande vigilance à avoir. Nous rappeler que la vie chrétienne, c'est une marche par la foi. Ce n'est pas une marche par la vue, ce n'est pas une marche par les émotions, ce n'est pas une marche par les sentiments, c'est une marche par la foi. Et la foi, c'est mettre confiance en ce que Dieu dit. Alors, ça ne veut pas dire que nos sens, nos émotions, nos sentiments n'ont aucune importance. Bien évidemment, ça ne veut pas dire cela. Mais ça veut dire que nos sens, nos émotions, nos sentiments ne doivent pas être le fondement de notre vie chrétienne, de ce que nous faisons ou ne faisons pas pour le Seigneur. Le fondement de notre marche doit être et seulement être la parole de Dieu. Ça aurait dû être le cas pour Isaac. Il connaissait ce que Dieu avait dit. Rebecca aussi. Attention donc à ne pas faire des émotions, des sentiments, de nos sens, les critères ultimes pour notre foi, notre piété, notre vie chrétienne. La marche chrétienne est une marche par la foi où nous avançons que nous voyions ou pas, où nous avançons que nous ressentions ou pas. C'est une marche par la foi, c'est-à-dire une marche de confiance en ce que Dieu a dit, en ce que Dieu a promis. Et nous marchons en nous basant sur ce que Dieu a dit, en vivant de sa parole et en vivant de ses promesses. Alors que le Seigneur nous fasse chacun grandir dans notre confiance en lui et dans notre confiance en sa parole. Ce sera pour sa gloire et ce sera pour notre bien. Amen.